Bonsoir à toutes et à tous. Pendant que vous cherchez dans ce texte, dans ce livre de l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 15, j'aimerais vous dire ce que j'ai à cœur ce soir de partager avec vous. Beaucoup de personnes savent que Jésus est venu sur la terre. Le calendrier nous indique que nous sommes en 2011 après Jésus-Christ. Une estimation en tout cas. Et nous pensons que c'est bien la preuve qu'il est venu sur la terre. Bien des personnes en parlent. Pour quelqu'un ce soir peut-être, Jésus est quelqu'un qui est venu sur la terre, qui a travaillé, qui a fait beaucoup de choses, qui a marqué son temps. Et puis il est mort. On sait pour la plupart qu'il est mort sur une croix, qu'il a donné sa vie sur une croix, en tout cas qu'il est mort sur cette croix dont on parle si souvent, et cela on l'accepte bien. La suite dit qu'il est ressuscité, et qu'il est encore vivant aujourd'hui, et qu'il est même présent ce soir. Amen. J'aimerais parler de quelque chose qui a été cité dans tous ces chants ce soir, qui parlait d'une chose vraiment réelle que nous vivons, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons en la parole, c'est que Jésus-Christ travaille encore aujourd'hui. S'il est venu sur la terre, s'il est travaillé, il a travaillé sur la terre il y a 2000 ans, s'il a fait quelque chose, s'il a marqué son temps, oui, il est mort, mais il est ressuscité, il est encore vivant, et aujourd'hui, il travaille encore. Et j'aimerais que nous fassions cette première lecture, donc, pour confirmer ceci. Même après sa mort, Jésus travaille. Donc, Marc 16, au chapitre 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit ça à ses disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 19, il nous est dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Il nous est dit ceci, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Voilà, ceux qui croient, on peut dire Amen. Dieu, Jésus, travaille encore aujourd'hui. Et que fait Jésus? J'aimerais que nous voyons quatre points que peut-être on a énoncés plusieurs fois, mais qu'il est bon de se rappeler. La première, le plus important, je pense, pour nous ce soir, pour chaque être humain dans leur vie, la première chose, c'est que Jésus sauve. Jésus sauve. On va faire une petite lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, au verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, en parlant de Jésus, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » On prend directement au verset 48. Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Alléluia. On voit cette histoire d'une femme dont la renommée l'a précédée. Jésus lui-même est invité chez un pharisien, chez un homme, et il est là, à table, et alors que sûrement, soit il s'apprêtait à manger, soit il mangeait, je ne sais pas. Cette femme vient aux pieds de Jésus, toute en pleurs. Elle vient à ses pieds, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle baigne les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle pleure, et elle pleure pas pour faire semblant, elle pleure vraiment. Et elle pleure sur les pieds de Jésus. Et il nous est dit qu'après, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, qu'elle prend, elle avait un parfum d'albâtre, c'est un parfum de grand prix qui vaut très très cher, et elle le prend de ce parfum cher, et elle les met sur les pieds de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que l'homme qui a invité Jésus, il commence à réagir, et à dire, oula, si Jésus était bien un prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse, il ne se laisserait surtout pas souiller, j'aimerais dire, par elle. touché par elle. Et Jésus qui lui dit, qui lui répond, d'abord il répond à cet homme, vous pouvez le lire, je vous encourage à lire la parole de Dieu, mais on a pris juste après, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et même si ça surprend les autres, Jésus répète, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Jésus lui dit ça. Jésus est venu pour pardonner les péchés. C'est pour ça que cette femme a été sauvée. Elle savait qu'en venant pleurer aux pieds de Jésus, elle pouvait trouver un secours, le pardon de ses péchés. Sa renommée la précédait. Sa renommée peut-être faisait d'elle une femme qu'on mettait à l'écart, qu'on ne voulait surtout pas côtoyer. Mais Jésus, lui, s'est laissé toucher par elle. À un autre moment, dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'il se laisse toucher par un lépreux. Jésus n'a pas peur de se laisser toucher, de se laisser approcher par des gens qui sont pécheurs. Et la Bible nous dit, et je suis sûr qu'ici ce soir on peut tous dire que nous sommes pécheurs. On est pécheurs. Devant Dieu, lui qui est si saint, si parfait, si pur, si on se met face à lui, on ne peut faire qu'une chose, c'est réaliser qu'on est pécheurs. Ceux qui disent qu'ils s'expliqueront avec Dieu une fois en face, ils se trompent. Ils plieront le genou et toute bouche confessera son nom. Cette femme a eu la bonne attitude, elle est venue pleurer aux pieds de Jésus. Si quelqu'un réalise qu'il est pécheur et que par cela, il ne peut être sauvé par lui-même, eh bien qu'il vienne aux pieds de Jésus. Parce que Jésus, encore aujourd'hui, sauve. Ce que nous dit l'Évangile, cette puissance de Dieu, de laquelle on n'a pas honte, nous qui parlons de lui, nous qui l'avons rencontré, cette puissance de Dieu, eh bien nous dit que Jésus est mort à la croix pour que justement nos péchés puissent être effacés. Nous pouvons être sauvés par le Seigneur Jésus. D'autres ont remarqué qu'on pouvait être sauvés, mais ils ont refusé ce salut. Matthieu 18, 11 nous dit « Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » L'Évangile nous le reconfirme une autre fois. Et quelqu'un en bas de la croix disait « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Quel affront. Cet homme avait le sauveur du monde devant lui. Il aurait pu être sauvé de ses péchés aussi, mais il a refusé. Il a refusé ce pardon. Et on peut être sauvé à une condition, c'est qu'on s'accroche au Seigneur Jésus. Qu'on le suive toute notre vie. Et comment le suivre? Eh bien, en suivant sa parole qu'il nous a laissée. Ce témoignage qu'il nous a laissé, qu'il nous est raconté dans ses évangiles. Toutes ces choses, c'est en suivant, en s'accrochant au Seigneur Jésus. Je racontais dernièrement une petite histoire. Un jour, il y avait un grand funambule. Vous savez ce que c'est un funambule? C'est quelqu'un qui marche sur un fil en équilibre, là, peu importe la hauteur, des fois il passe de gratte-ciel en gratte-ciel, il marche comme ça. Et un jour, il y avait un grand funambule, il a dit, voilà, je vais traverser les chutes du Niagara, je vais passer au-dessus des chutes du Niagara. Et alors, une grande foule s'est rassemblée, il y a eu de la pub, et alors que la foule était en bas, lui, il était là, avec les micros, tout ça, il disait, alors, est-ce que vous croyez que je peux traverser les chutes du Niagara? Toute la foule s'écrie, oui, on le croit!
C'était pas eux qui étaient en haut.
Et alors il répète, mais vous êtes sûr que je peux traverser ces chutes? Vous êtes sûr que je peux le faire? Et toute la foule, oui, on croit, c'est bien. Il dit, très bien, que l'un d'entre vous vienne avec moi sur mon dos. Ah, ça c'était autre chose. Ça demandait de mettre sa confiance dans cet homme. Et l'Évangile ne nous incite pas à mettre la confiance dans un homme, mais en Jésus, qui est Dieu, lui-même le Fils de Dieu. Et c'est à cette condition, si nous acceptons de nous accrocher au Seigneur Jésus, de lui faire confiance. La confiance, c'est la foi en Jésus. Si nous faisons confiance à Jésus, lui qui a donné sa vie pour nos péchés, pour nous pardonner, alors nous pourrons être sauvés. Le deuxième point, je ne veux pas m'attarder, Jésus guérit. Jésus guérit. Dans Marc 1,40, nous est dit ceci, un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Jésus guérit. Et là, on voit qu'il l'a fait de son vivant. Mais encore, alors que Jésus travaillait avec ses disciples, on voit Pierre et Jean, à l'heure de la prière, qu'ils vont au temple, il y a un boiteux devant le temple, et ils leur disent, voilà, alors qu'ils passent, pardon, ce boiteux leur dit, est-ce que vous, ils faisaient l'aumône, ils leur demandent de l'argent. Et Pierre et Jean, ils sont là, devant le temple, et devant cet homme surtout, et ils lui disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et le boiteux, il se lève, et il marche, il rentre dans le temple, et il donne gloire à Dieu. Jésus, encore aujourd'hui, guérit. Pendant de son vivant, Jean a fait envoyer des disciples pour savoir si Jésus était bien le Messie, le Sauveur du monde. Dans Matthieu 11, on voit que Jésus répond à ces personnes qui sont venues de la part de Jean. Racontez ceci à Jean. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La guérison. Est-ce qu'aujourd'hui encore Dieu peut guérir? Jésus peut guérir. Est-ce qu'il travaille encore aujourd'hui au point de guérir ceux qui sont malades? Est-ce que Jésus peut le faire? Moi, j'ai été guéri de l'hépatite B. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui, ce soir, qui peuvent dire, moi, j'ai été guéri? Il y en a, hein? Vous pouvez lever la main? C'est pas... On est nombreux, hein, à avoir fait l'expérience que comme quoi Jésus guérissait, guérit d'une dépression, et guérit de tous les maux. Tous les maux, Jésus peut les guérir. Mon père avait des otites chroniques purulentes depuis sa naissance, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et la deuxième fois qu'il est rentré dans une église, alors qu'il venait d'avoir un accident, il venait de perdre son œil au travail. Il travaillait avec un marteau, des clous. Il était menuisier dans le bâtiment. Et la tête du clou en acier a sauté et a traversé son œil. Aujourd'hui, il est borgne. Et il est là, il était en convalescence. Et pour la deuxième fois, on l'invite à la réunion. On lui avait donné une Bible juste avant, la première fois, et il l'avait lu un peu à la maison, il avait vu que la prière sauvera le malade. Alors il a dit, si ça c'est vrai, que Dieu me le prouve. Et il avait oublié cette parole. Et la deuxième fois qu'il est venu à l'église, alors que le pasteur prêchait, il prêche ceci, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Il a dit, mais comment il savait que j'étais là, que j'allais venir lui? Il avait dit à personne qui viendrait. Il rentre, il s'assoit un peu de champ, et cet homme qui ne savait rien de son état, commence à prêcher, il était au fond de la salle, commence à prêcher, si ton œil est en mauvais état. Du coup, il a pris au sérieux la prédication. Il s'est dit sûrement qu'il y a quelque chose, il se passe quelque chose là. Et à la fin, l'homme qui prêchait, il a dit, voilà, si quelqu'un veut s'avancer, on va prier pour lui, et Jésus peut le sauver, peut le guérir. Faites cette expérience. Mon père, se souvenant des paroles qu'il avait dit, la prière sauvera le malade, il a dit, mais, eh bien tiens, je vais tenter, je vais y aller. Il s'est levé, il s'est approché, on a prié pour lui, il a été guéri instantanément de 18 ans de maladie, de ses otites chroniques purulentes. Il disait que tous les matins, pendant 18 ans, depuis sa naissance, il se levait, il y avait du pus sur son coussin. Il était associable, il n'arrivait pas, il était bloqué, il a 3 trous dans les tympans, encore aujourd'hui une oreille a 2 trous et l'autre a 1 trou. Et il entend pourtant, il est content, il entend, alors que normalement il aurait pu devenir sourd. Dieu l'a gardé, Dieu même a arrêté. Cette maladie, Dieu l'a guérie. Je crois que Jésus encore guérit aujourd'hui. Mais quand il est parlé de guérison, non seulement il est parlé de guérison physique, mais aussi la guérison quant au péché. Le péché est un poison qui sévit, qui agit dans notre vie. Et peut-être le péché est encore là, on a rencontré le Seigneur, peut-être ça fait des années qu'on est avec Dieu, qu'on est avec Jésus, qu'on marche avec lui, mais il y a encore ce poison qui est là, qui nous empêche d'être pleinement épanouis. Et Jésus veut encore guérir. Et il veut que toute notre vie nous approchions de lui pour être guéris des effets de ce poison. Parce que même Paul le remarque, que dans son corps il y a une loi, le péché qui est là, qui lutte contre son entendement, sa bonne volonté de suivre Jésus. Il y a une loi qui lutte et son corps est encore de temps en temps voué à l'échec. Et il est là, il le fait tomber. Alors il dit, mais je voudrais bien, comme la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors Dieu veut guérir encore. Et il nous est parlé de ce phénomène, de ce processus qu'est la sanctification. Dieu veut guérir, Jésus veut guérir encore, même le croyant, même tout le monde. Chacun d'entre nous, nous pouvons avoir quelque chose d'être guéri. Ça peut être un vice, ça peut être la paresse, ça peut être peu importe, la colère. Jésus peut nous guérir. Et toutes ces choses, les querelles, ces choses, Jésus veut nous aider à les enlever de nos vies pour être encore plus épanouis avec lui. Hébreux 12, 14 dit « Personne ne verra Dieu sans la sanctification ». Jean 17, 17, c'est Jésus qui parle, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors comment être sanctifié? Comment être guéri encore tout à nouveau des effets de ce poison qu'est le péché? Eh bien, en lisant la parole et en l'appliquant dans nos vies, en la laissant faire son œuvre. Amen. Le troisième point, c'est Jésus baptise. Jésus, il baptise. Mais il baptise de quoi? Eh bien, on va le lire dans Actes, au chapitre 1 et au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et on voit au verset 8 qu'il réitère, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Amen. Sur toute la terre, avec un processus, un départ. Jérusalem, Judée, Samarie, c'est exactement ce qui est arrivé, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et encore aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de cette promesse que Jésus baptise. Et on vient de lire qu'on va recevoir le Saint-Esprit, mais dans Matthieu 3, 11, Jean pouvait dire « Moi, je vous baptise d'eau ». Et un petit peu plus loin, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pourquoi Jésus baptise du Saint-Esprit? Pour que l'on soit des témoins. Et être un témoin, on est un témoin quand notre vie témoigne de ce que l'Esprit fait en nous et de ce que Jésus fait en nous. Notre vie est véritablement un témoignage lorsqu'elle prouve que ce que dit la Bible est vrai. Parce qu'on expérimente ce que dit la Bible jour après jour. On est un témoin parce que le Saint-Esprit nous aide à nous éloigner du mal, à nous éloigner du péché. Justement, la réponse, comment Jésus guérit? Parfois, il envoie son Saint-Esprit pour nous secourir. Et on voit que c'est par son Esprit que Jésus agit, encore aujourd'hui. Alléluia. Jésus baptise du Saint-Esprit. Sans cet Esprit Saint, nous n'aurons pas ce dynamisme, cette puissance non plus, pour être de véritables témoins. Le Saint-Esprit, quand il est en nous, il crée en nous des fruits. On peut les lire dans Galates. Je pense qu'il est bon de les lire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, quand l'on est baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait en nous? Comment reconnaît-on d'ailleurs que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que c'est parce qu'il parle en langue? Je crois pas. Je pense plus que le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Toutes ces choses. Est-ce que notre vie reflète l'amour de Christ? Est-ce que notre vie reflète la joie du salut? Est-ce qu'elle possède la joie du salut? Est-ce que je suis en paix, même quand tout va mal? Est-ce que j'ai de la patience envers ceux qui titillent cette patience? Bien des fois, excusez-moi pour l'expression. Est-ce que j'ai de la bonté envers ceux qui m'entourent? Est-ce que je suis bienveillant? Est-ce que j'ai ma foi qui grandit de jour en jour, de par les expériences que je vis avec Christ? Est-ce que la douceur et la maîtrise de soi sont des caractères, des choses qui me caractérisent? Est-ce que ce fruit de l'Esprit est en nous? Voilà pourquoi Jésus nous baptise, pour que nous reflétions toutes ces choses, pour que nous soyons vraiment cet arbre sur lequel on peut venir cueillir un fruit agréable. Amen. Quand Jésus dit « nourrissez-les », est-ce que c'est pas de cette manière aussi que nous pouvons nourrir le monde en répandant l'amour et toutes les choses que nous avons lues? Je le pense. Et quatrième point, Jésus revient. Dans Acte 1 toujours, au verset 11, il me semble que dans un des champs, on posait cette question, et Nathanaël et moi, on se posait la question, Nathanaël m'a posé la question, est-ce que tu seras avec moi? Moi, j'y serai, et toi? Et j'ai dit, mais moi, j'y serai aussi avec le Seigneur Jésus, dans le ciel. Jésus revient, acte 1, 11, on voit que Jésus est parti, et des anges sont là. On va lire à partir du verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, il nous est parlé des disciples, qui ont vu Jésus partir. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et Jésus dit, « Je reviendrai quand vous ne vous y attendrez pas. » On voit que Jésus va revenir. Et j'ai pris un texte, j'aurais pu en prendre bien, bien beaucoup dans le... L'Apocalypse est rempli, les épîtres nous parlent de l'espérance, et justement, Romains 15, 13, nous dit que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'espérance. Le Dieu de l'espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Encore le Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit est venu en nous, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il rappelle à notre esprit, il rappelle à notre cœur que Jésus revient. Et si aujourd'hui on passe par quelques difficultés, si aujourd'hui la vie peut paraître un peu rude, peut paraître longue, parce qu'on se languit, quand on sait qu'on va aller au paradis, quand on réalise vraiment ce que c'est le paradis, eh bien, on a envie d'y aller parfois, hein. Quand on est las, quand on est fatigué, on se dit vivement les vacances éternelles, vivement ce paradis. Hein, c'est pas vrai? Vivement ça! J'ai hâte! Eh bien, quand on voit que ça tarde, le Saint-Esprit nous rappelle l'espérance. Cette espérance, puissiez-vous la voir? Car quel désespoir pour quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, qui ne sait pas où il va aller plus tard, qui ne sait même pas s'il y a quelque chose après la mort. Quelle tristesse! Si cette vie que l'on passe sur la terre, c'est fini après, mais à quoi ça vaut? À quoi bon vivre si c'est que ça? Après tout, quand on arrive à la fin de notre vie, on peut se dire, mais ça a été court. Est-ce que j'ai fait que du bien? Est-ce que j'ai pas gâché ma vie? Beaucoup de personnes pourraient se dire ça. Et pas besoin d'attendre d'être vieux. Hein. Jeunes, beaucoup se suicident, arrêtent leur vie, disent, mais j'ai plus d'espoir. Plus d'espoir. L'espérance manque dans notre monde. Et nous qui avons Jésus-Christ, on a un Jésus qui revient, un Sauveur qui revient, un Seigneur qui revient. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient en lui et une très mauvaise pour ceux qui n'y croient pas. Puisque Jésus, malgré tout, même si on n'y croit pas, va revenir. Et il dit qu'il va rendre des comptes à chacun. Et s'il le dit, justement, c'est par amour, pour que nous puissions nous préparer, prendre au sérieux cette affaire du péché, qu'il y a besoin de régler l'affaire du péché dans notre vie, demander pardon au Seigneur, accepter de le suivre, de s'accrocher à lui, comme s'accrocher à ce funambule, même si ça fait peur, même si ça demande du courage, de la foi, de la confiance. Mais si on le fait, eh bien on est joyeux. Et Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ça qui manque. Un avenir et de l'espérance. Avec Jésus-Christ, on a ces choses. Un avenir, oh, pas court, et surtout pas mauvais. Un avenir merveilleux, la félicité, pour l'éternité, dans la présence de celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui a tout créé, le ciel, la terre. On sera avec lui. Pour l'éternité. Plus de douleur, plus de tristesse, plus toutes ces choses. Jésus revient très vite, très bientôt. Préparons-nous, prenons au sérieux. La Bible dit que, justement, je l'ai dit en premier, que Jésus revient quand on ne s'y attendra pas. Il reviendra alors qu'on sera occupé. Il dit qu'il y en a un qui dormira, de deux qui dormiront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Si, il y en a un qui croit en Jésus et l'autre qui n'a pas voulu faire attention. Un jour, deux jeunes croyants, jeunes personnes qui s'étaient engagées avec le Seigneur, un couple, plus âgé que moi, ils viennent me voir un jour, ils disent « Jérémy, on a lu quelque chose, de deux dans un lit, il y en aura un qui sera pris, l'autre laissé. Est-ce que Jésus va faire, il va en prendre un de nous deux et pas l'autre ?» J'ai dit « Mais non, si tous les deux vous êtes au Seigneur, il va vous prendre tous les deux. » Alors, c'est vrai qu'on pouvait dire « Mais non, le Seigneur, il prend ceux qui veulent être emportés par lui, qui peuvent être enlevés par lui. » Amen. Quelle espérance de savoir que notre vie ne s'arrête pas à ce qu'on fait sur cette terre. Parce que bien des fois, on a pu se décevoir et décevoir les autres aussi. Il y en a un qu'on a déçu si on a péché, c'est le Seigneur. Mais on peut régler cette affaire. On peut retrouver la paix. On peut recevoir ce pardon qui fait tant de bien. Ce pardon. Je me souviens quand j'étais petit, lorsque je faisais des bêtises, j'attendais la correction. Je faisais tout pour cacher la bêtise. Et quand mes parents tombaient dessus, je me disais aïe, 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 aïe. Mais une fois que c'était passé, j'avais payé ma dette. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai eu ma correction, j'allais pas en prendre tous les jours pour la même bêtise. C'était fait. Et Jésus, il a pris la correction à notre place. Il a pris tout ça à notre place. Et il dit qu'aujourd'hui, il n'y a que le pardon qu'on a à recevoir. Quelle merveilleuse bonne nouvelle. Ça, c'est de l'évangile. Hein. C'est vraiment une puissance. Et toutes ces choses, ces quatre points, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient, toutes ces choses se reçoivent et se vivent par la foi. Même le retour de Jésus, aujourd'hui je peux le vivre en espérance, cette espérance qui m'habite déjà. C'est déjà un peu vivre le retour de Christ. Quand je dors, parfois il m'arrive de rêver du retour de Christ. Ça vous arrive jamais, vous chrétiens? Moi des fois, j'entends une trompette. C'est vrai. Tadam ! Je dis ça y est, reviens. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rêver de ces choses. On le vit, on a tellement hâte. On le vit. Mais tout cela se vit si on a la foi. Vous vous souvenez de ce passage qu'on a lu ? Jésus sauve, ta foi t'a sauvé, pouvait-il dire à cette femme. C'est la foi qui sauve. À un autre endroit, dans la parole de Dieu, on voit qu'il dit, ta foi t'a guéri, à la femme qui était à la perte de sang. Hein ? La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, Jésus l'a guéri, mais il ne lui dit pas simplement comme ça, il lui dit, ta foi t'a guéri. Le Saint-Esprit aussi, pour ceux qui le recherchent et qui le demandent, eh bien ça se reçoit par la foi. Jésus l'a promis, il n'y a qu'à se saisir de cette promesse et de vouloir être des témoins. Bien sûr, vouloir le Saint-Esprit pour obéir à Dieu, être des témoins fidèles et des témoins efficaces. Par la foi, ça se reçoit. Et Jésus revient, ça se croit aussi par la foi. Et si la foi est en nous, on va s'attendre à ce que Jésus revienne. Beaucoup de personnes, même des chrétiens, malheureusement, attendent que Jésus revienne. On attend. Vous savez, vous comprenez la différence entre attendre et s'attendre ? Il y a une attente, c'est un peu passif. Et s'attendre, c'est actif. Vous voyez ? Il y en a, ils attendent. Bon, ils ont fait la paix avec le Seigneur, ils croient que ça suffit. Pas besoin de s'accrocher à Jésus-Christ. Non, non. Ils sont là, ils attendent. Et ils vivent leur vie comme bon leur semble. Une parabole de 10 vierges nous parle. De 5 qui étaient dans la préparation, qui s'attendaient, qui faisaient des réserves, qui avaient fait des réserves. Et de 5 autres qui avaient dit, oh ben, ça va sûrement arriver dans pas longtemps. Elles ne se sont pas préoccupées du retour de leur fiancé. Et puis ça nous parle de Jésus-Christ. Certains attendent, d'autres s'attendent. Puissions-nous nous attendre au retour de Christ. Amen. Jésus disait aussi dans Jean 11, 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il le dit même, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il me semble que juste après, il ressuscite un mort. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, quelle bonne nouvelle. Tu travailles encore aujourd'hui. Ce soir, tu travailles nos cœurs. Ce soir, tu nous annonces une bonne nouvelle. Celle que tu sauves, tu guéris, tu baptises du Saint-Esprit. Et tu reviens, mon Dieu. Nous sommes heureux parce que nous l'avons vécu, peut-être pour certains. D'autres sont en marche, peut-être. Que personne ne se prive de la grâce. J'aime cette prière. Que personne ne se prive de ta grâce. Tu donnes tout ça gratuitement, par amour, sans mérite, comme il a été dit pendant les chants. Il ne suffit pas, ou il n'y a pas besoin de mériter, d'être grand, petit, riche. Peu importe. Tout le monde a droit à ce cadeau que tu as offert. Merci mon Dieu pour ta vie que tu as offerte sur la croix. Tu as eu la correction, tu as payé le prix à notre place. Que nous puissions reconnaître qu'il n'y a que Dieu pour faire ça, donner sa vie, non seulement pour nos amis, mais pour ceux qui sont encore nos ennemis. Amen. Sois béni Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Amen.